C'est Gravel dans le retour à Boulevard pour nous écouter au-delà de la voiture ou si vous roulez un petit peu plus loin pour éviter la friture et les problèmes. BLVD.fm ou l'application Boulevard à deux clics du bonheur sur votre téléphone. Comment ça se passe dans le trafic, Audrey?
C'est difficile, je vous dirais. Il y a plusieurs incidents qui sont terminés, mais qui laissent des traces. Peut-être commencer par la capitale, direction Est, à la hauteur de Robert Bourassa. Direction Ouest, c'est à la hauteur de Laurentienne que ça se passe. Robert Bourassa, direction Nord, entre Charest et la capitale, il y a toujours des problèmes. Si vous êtes sur Henri IV Nord, à la hauteur de la capitale, il y a un ralentissement. Dans le coin de Val-Bélair, aussi entre l'avenue Sainte-Geneviève et l'avenue Industrielle, il y a des problèmes également devant la base militaire dans le coin de Shannon, route de la Bravoure dans les deux directions. L'entrée des ponts, toujours difficile, direction Sud. À partir d'Henri IV, ça congestionne à la hauteur là, de Charest jusqu'à l'entrée du pont Pierre-Laporte. Pareil pour ce qui est de Duplessis, par exemple, ça commence à ralentir à la hauteur de chemin Sainte-Foy. Charest, direction Est, c'est surtout entre Duplessis et Henri IV que ça se passe. Il y a quelques ralentissements là, si vous êtes sur Taniata à la hauteur de la 20 en ce moment. Pour ce qui est de la 20 sur la Rive-Sud, par exemple, ça roule. Évidemment, il y a quoi que ce soit d'autre, 88-971-1021.
Quand on se questionne sur des enjeux de santé et sur ce qui retient l'attention dans l'actualité, et au niveau de la santé, c'est particulier parce que c'est cyclique. Hein? Dans le temps des fêtes et au mois de janvier, on dirait que s'en accumule des histoires concernant la santé, les virus, les urgences et ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait dans ce temps-là? On se tourne vers Élise Berger-Pelletier, urgentologue, qui est pas trop loin. On s'en va la rejoindre. Salut, Élise!
Bonjour tout le monde, bonne année!
Hey, bonne année à toi aussi. La santé, puis la santé peut-être de tout ce qui se passe autour de toi. D'ailleurs, ce qui amène un peu la première question, puis c'est un classique du mois de janvier. Comment ça a été le temps des fêtes dans les urgences?
Écoute, moi j'ai eu la chance de travailler à Noël. Ça a été très tranquille, comme à chaque année, jusqu'au 26 décembre. Et le 26 décembre, l'hécatombe des virus a commencé tranquillement à tomber sur plusieurs d'entre nous. Et donc, chez les patients, les usagers, les personnes âgées, les enfants, les gens immunosupprimés, ce qui fait que ça a congestionné pas mal. Capitale nationale, quand même, au niveau du CHU de Québec, là, c'était dans les urgences qui ont le mieux performé là, quand je regardais les taux d'occupation. Mais sinon, Chaudière-Appalaches, vous avez vu les articles comme moi, là, Montréal, Montérégie, à des taux d'occupation vraiment alarmants au niveau des tiers. Là.
Puis on voit que c'est encore des chiffres de janvier hein, qu'on va appeler, Véro.
C'est pas pour rien que demain, l'Agence Santé Québec va faire sa première sortie pour nous dire c'est quoi qui se passe dans les urgences. J'ai bien hâte de voir s'ils ont des solutions miracles que le ministère de la Santé n'avait pas dans le temps.
À suivre. Hey, là, on a beaucoup entendu parler dans le temps des fêtes. Puis oui, le feu part vite sur les réseaux sociaux, là, mais... Le nouveau virus respiratoire en Chine, là, il y en a qui disaient « Oh non, ça repart. »
C'est comme un cauchemar. Hein?
Oui, puis on n'a pas le goût de retomber là-dedans. Élise, es-tu là pour nous rassurer ou nous inquiéter au total tout?
Je vous rassure. En fait, vous l'avez peut-être eu, ce virus-là, dans les dernières semaines. Quand on a la possibilité, on le fait particulièrement chez nos poupons qu'on hospitalise. On a des tests maintenant, des batteries de tests au niveau des virus qui identifient les 15 à 20 virus les plus fréquents. Puis ce virus-là, j'oublie son petit nom d'amour, mais le métapneumovirus, on l'a environ chez 10% des enfants ou des gens qui ont des symptômes de rhume, fièvre et tout ça. Donc, c'est un virus qui circule déjà chez nous. C'est pas comme la COVID qui était un virus qui était plutôt en Chine et en Asie, qui a muté puis qui est venu faire une pandémie mondiale. Puis c'est normal d'être avec elle. On est tous un peu encore PTSD là, de tout ça, là, en post-traumatique. Mais ne vous inquiétez pas, ce virus-là, il roule à chaque hiver dans nos maisons. Nos enfants l'attrapent. Chez les adultes, ça passe des fois avec de la fièvre, des fois c'est juste un rhume banal. Donc, pour le moment, il n'y a pas d'inquiétude. Puis c'est pas une mutation. Hein. C'est vraiment le virus qu'on connaît, okay, qui a eu une recrudescence en Chine. Puis je regardais entre autres les infectiologues de Sainte-Justine et tout ça qui rassuraient en disant « Bien, la Chine est dans l'hémisphère nord, ils ont un hiver comme au Québec, donc eux aussi, même s'ils ne fêtent pas nécessairement Noël en même temps que nous, puis il y a le Nouvel An chinois, bien, l'hiver, il y a toujours plus de virus en hémisphère nord, c'est un peu normal. »
Il y a des histoires qu'on pensait qui étaient définitivement derrière nous et qui sont revenues. On aime ça quand, mettons, une franchise de films qui s'était éteinte revient. Mais c'est pas le remake qu'on voulait nécessairement, le remake de La Rougeole. Des cas supplémentaires qui ont été recensés au Québec. Si on reprend du début, Élise, pourquoi La Rougeole est de retour et pourquoi elle a recommencé à faire du chemin comme ça?
En fait, si on veut éradiquer la rougeole, il faut que la population mondiale soit vaccinée à plus de 90-95%. C'est comme ça qu'on a éradiqué la seule maladie qu'on a réussi à éradiquer dans le monde, c'est la variole. Mm. C'est grâce à ça. Il y a eu de la vaccination mondiale très agressive dans le temps, dans le sens qu'on a été voir chaque humain sur Terre pour le vacciner. On a réussi à éradiquer la variole. Il y a certains pays dans le monde où on ne vaccine à peu près pas pour la variole, ce qui fait que le virus circule. Maintenant, on a les avions, on a l'immigration, on voyage partout dans le monde très facilement, ce qui fait que les virus voyagent partout facilement. Et donc, malheureusement, on a donc des humains qui étaient infectés par la rougeole qui sont arrivés chez nous. Et l'autre problème qu'on a, c'est qu'on a une couverture vaccinale qui est moins bonne qu'avant pour différentes raisons, les fameux débats dans la place publique que les vaccins, c'est méchant, les vaccins, c'est dangereux, il ne faut pas se faire vacciner. Mais là, ça fait qu'on a des endroits, des groupes, entre autres, dans certains secteurs de la ville de Québec, dans certains secteurs de la ville de Montréal ou ailleurs au Québec, où on a des couvertures vaccinales à 70 %. Ça veut dire que 3 personnes sur 10 qui ne sont pas vaccinées ou 4 personnes sur 10, et c'est cette personne-là qui est là, qui attrape la rougeole. Puis ça fait que là, eux la propagent ensuite. Il faut savoir que même si vous êtes vacciné, ça se peut que vous l'attrapiez, parce que le vaccin ne protège pas 100% des gens qui l'ont reçu. Fait que malheureusement, c'est pour ça qu'il y en a plus.
Élise, es-tu toujours là? La liaison est mauvaise. Regarde ce qu'on va faire, Élise. Es-tu en mesure de nous appeler au téléphone rapidement? Parce que le délai, c'est une chose, mais là, on commence à te perdre un peu, puis il nous reste des sujets à jaser ensemble. Tu peux nous appeler?
Oui!
Parfait! On attend ton téléphone. Il est à 16h39. Élise Berger-Pelletier, qui est urgentologue. C'est rare qu'on ait à distance, mais il faut qu'elle travaille une fois de temps en temps pour sauver le système de santé. Je pense qu'elle a fait plus de jobs à elle seule que toute l'Agence Santé Québec.
Depuis le 1er décembre.
D'ailleurs, qui va s'adresser à la population demain. Hey, les urgences, présentement, c'est un taux d'occupation à quoi? 150% à peu près?
C'est la porte d'entrée absolument tout le monde qui n'a pas de médecin de famille parce que c'est trop difficile oui. de fonctionner dans les dédales actuellement.
Élise, t'es là?
Oui, m'entendez-vous mieux?
Bon, oui, yay. A1. On parlait de vaccination, Élise, puis moi, je le vis avec mon plus jeune présentement, puis je commence à m'inquiéter puis à me décourager un peu. Comment on fait vacciner un jeune qui fait des crises de panique puis qui a peur des aiguilles? Parce que là, j'ai peur que mon jeune devienne complotiste ou pire, Bosson.
Franchement!
C'est des jokes, là, calmons-nous.
c'est toute la gestion des crises de panique en général, là, donc c'est la gestion des phobies.
Ouais.
Sincèrement, il existe des bons psychologues ou des gens qui peuvent le coacher là-dedans. Tu peux même aller voir des vidéos sur YouTube sur comment coacher quelqu'un qui fait une crise de panique. Fait que ça peut être peut-être quelque chose qui est facilement accessible. Des outils sur Internet sur comment gérer une crise de panique en général sur une phobie comme les aiguilles. Écoute, il y a même des enfants, puis je l'ai vu, entre autres, pour, mettons, quand on devait donner des médicaments par injection ou on donnait de la médication pour faire l'injection. C'est juste que le problème, la médication dure 4 à 6 heures pour un geste qui dure 1 minute. Fait que c'est un peu tannant de faire ça, on s'entend.
Mon Dieu, ouais.
Mais dans les cas sévères, où, tu sais, mettons, de la chimiothérapie, des choses pas possibles, où on n'avait pas le choix, là, ben là, à ce moment-là, on donnait une médication qui enlève la crise de panique complètement chez nos enfants, là, tout à l'heure confondu. Mais c'est ça, c'est vraiment d'essayer d'aller voir sur qu'est-ce qui fait qu'ils paniquent, parce que oui, je pourrais dire que vous pouvez mettre 3 personnes, le tenir bien serré puis le piquer, ça se fait aussi, là, dans le sens que on le fait parfois, parce que c'est un geste qui dure, en théorie, 3 secondes et quart. Sauf que là, tu crées le cercle vicieux où, à chaque fois qu'il va se refaire repiquer, il va aussi se rappeler
exact.
Qu'il s'est fait prendre, puis là, ça va juste être pire. Fait que moi, je te dirais que étape 1, ça serait d'aller voir avec lui des vidéos YouTube sur comment on peut le rassurer, comment on peut faire diminuer sa crise de panique. Puis ça va être bon pour d'autres choses. Si dans 10 ans, comme adulte, fait des crises de panique sur d'autres événements de sa vie, comme prendre l'avion, ben, il va être capable de gérer ça. Fait que moi, j'essaierais ça.
Merci, Élise. Puis s'il y a des gens qui ont vécu ça avec leur gamin d'une façon ou d'une autre, je suis curieux de savoir si vous avez essayé des solutions qui ont marché. 418-971-1021. Hey, pendant que tu essayais de nous rappeler, Élise, on était revenu sur la situation dans les urgences. Oui. Présentement, le taux d'occupation est de plus de 150 %. Ça fait 5 journées en ligne qu'on est dans des taux qui ressemblent à ça. C'est un classique du mois de janvier. Puis en même temps, bien, dans une urgence à 150 %, comment on fait pour se démêler?
Je l'explique à chaque fois, mais je le refais encore parce que je me dis qu'il y a peut-être des nouveaux auditeurs qui ne l'ont pas entendu. Le taux d'occupation, il faut savoir que c'est un pourcentage, donc c'est un ratio. C'est le nombre de patients qu'il y a sur toutes les civières, et donc civières, pas salle d'attente, qu'il y a sur toutes les civières, divisé par le nombre de civières qui sont normalement au permis de l'hôpital. Fait que si je prends une urgence Y qui normalement a 25 civières au permis, puis que là, aujourd'hui, elle a 50 patients couchés sur plein d'autres civières dans les corridors, et donc à 200 % de taux d'occupation. Mm-hmm. C'est comme ça que c'est calculé. Puis présentement, ce qui fait mal, puis c'est comme ça à chaque hiver, tu as raison, c'est que on a de plus en plus de patients âgés, de patients gravement malades, et de plus en plus de gens qui ont des cancers sous chimio, tout ça, qui font les virus. Écoute, il y a eu de la gastro. On a tellement vu de gastro pendant le temps des fêtes, là. Donc, ces gens-là se déshydratent. Puis, il faut les coucher sur civière le temps de les réhydrater ou le temps de les hospitaliser. Puis là, le problème, c'est qu'on n'a plus assez de lits hospitaliers pour hospitaliser ces gens-là. Puis non seulement ça, quelqu'un de 89 ans qui était relativement autonome, qui fait une pneumonie, va peut-être être débilité au point où on va être obligé de la relocaliser dans une ressource, un CHSLD ou je sais pas quoi. Puis ça, ça prend du temps. Puis les systèmes hospitaliers, il n'a pas été créé pour ça. Fait qu'on n'est plus capable d'étirer l'élastique ailleurs qu'à l'urgence. C'est pour ça qu'à chaque hiver, ça fait ça. C'est une trop grande demande pour l'offre de lits hospitaliers qu'on a au Québec. C'est redondant, malheureusement, mais c'est comme ça depuis des années.
On sait qu'il y a plusieurs défis qui s'en viennent pour notre système de santé au Québec. Et évidemment, le vieillissement de la population va amener un paquet de nouvelles problématiques, ou à tout le moins, ça va aggraver et empirer certaines problématiques. Il y avait des textes en fin de semaine dans les journaux sur l'Alzheimer, puis comment prévenir ce cauchemar-là.
En fait, le débordement qu'on va avoir avec le vieillissement de la population, on a déjà de la difficulté à tenir le système en place, mais... plus on va vieillir, plus il va y avoir de gens avec des problèmes d'Alzheimer qui vont être encore là puis qui vont être dans le système. Là.
D'ici 2050, on dit que les cas d'Alzheimer vont doubler au Québec. On fait quoi avec ça?
Écoute, c'est moi, pour vrai, c'est une des choses qui m'empêche de dormir la nuit. Un, parce que chaque corps de travail à l'urgence, c'est une proportion de ma clientèle qui, dans les 5-10 dernières années, a triplé, quadruplé. J'ai pas les statistiques en tête, mais c'est avant... un patient qui faisait de l'Alzheimer, on voyait ça une fois de temps en temps. Maintenant, c'est le tiers ou la moitié des patients que je traite à l'urgence. Fait que c'est déjà une réalité dans le quotidien. Tous les médecins qui font du milieu hospitalier, les médecins de famille qui voient ça dans leur clinique aussi, qui font souvent le diagnostic. Comment on va gérer ça? C'est une excellente question. Moi, tu le sais, j'aime beaucoup regarder ce qui se fait ailleurs. Puis j'essaie de voir s'il y a des gens qui ont... souvent une longueur d'avance sur nous au Canada, ben est-ce qu'on est capable de faire différemment? Quand on regarde, on se compare beaucoup à la Norvège, la Suède, la Finlande, parce qu'on est souvent les premiers, mais eux, ça tourne beaucoup, oui, dans la prévention de la maladie d'Alzheimer, ce qu'on appelle la démence, là, en fait, parce qu'il n'y a pas juste la maladie d'Alzheimer, puis dans les soins à domicile. Mais c'est quasiment de décentraliser. C'est comme si on allait mettre un mini-hôpital dans un camion, puis on allait l'amener chez les patients. Mmh. C'est littéralement ça. Parce que de penser qu'on va être capable de répondre à la demande en construisant des hôpitaux, c'est presque... C'est en fait une lubie. On n'y arrivera pas. Fait que c'est vraiment de changer complètement notre façon de donner des soins. C'est aussi la sensibilisation par rapport aux familles. Tu sais, au Québec, on a eu les CPE, on a eu plein de choses, entre autres parce que les femmes qui sont sur le marché du travail, tout ça, on a pu les femmes à la maison qui s'occupent des enfants, puis par la suite des parents plus âgés, c'est moins vrai dans notre réalité québécoise, mais c'est un fait. Donc, il faut travailler différemment, mais ça passe beaucoup par organiser ça. Puis écoute, moi, je me pose beaucoup de questions, je connais pas l'avenir, mais aussi, on a vu ça cet automne, les demandes anticipée d'aide médicale à mourir vont être un facteur qui va jouer dans notre société québécoise aussi par rapport à la démence d'Alzheimer, on ne se le cachera pas. Fait qu'il y a beaucoup d'inconnus, il y a du connu qu'on peut regarder ailleurs, qu'on peut essayer de s'améliorer, mais ça fait un peu peur, sincèrement.
Élise, je me dois de te consulter pour une question de santé publique.
Écoute,
un peu plus tôt cette semaine, j'ai partagé avec mon équipe et les auditeurs
sa nouvelle passion.
J'ai reçu un bidet pendant le temps des fêtes où il y a mon anniversaire. Puis mon bidet n'est pas super technologique, c'est-à-dire que je peux pas mettre d'eau chaude, il est à l'eau froide. Et là, on m'a comme dit qu'il y avait une possibilité à l'eau froide avec le temps d'hémorroïdes, ce qui a fait franchement peur à plusieurs auditeurs et à moi-même. Donc, je me suis dit, pourquoi pas consulter Élise sur le sujet, parce que je veux pas effrayer les utilisateurs de bidets quand même de la Ville de Québec.
Ah, mais c'est donc bien cute, parce que c'est comme quand mon père, quand j'étais petite, il me disait, assois pas à terre quand il faisait froid,
oui,
tu vas avoir des hémorroïdes.
Nous l'ont tout dit, là.
Mais ça, c'est un mythe, je te rassure. Les hémorroïdes apparaissent parce qu'en fait, c'est des veines, les hémorroïdes. Au niveau de l'anus, on a plein de veines, on a plein de vaisseaux sanguins. Puis c'est une pression qui augmente et qui fait que les veines sortent, littéralement. Donc, la cause numéro un des hémorroïdes, c'est la constipation. Et chez la femme, c'est la grossesse parce que le bébé va venir peser sur toute la circulation sanguine dans le pelvis. Et donc, les hémorroïdes vont sortir. Fait que le fait d'envoyer de l'eau froide par un bidet ne crée pas d'hémorroïdes. Donc, vous pouvez être rassuré, utilisateur d'eau froide et de bidet.
Ben là, ça me fait plaisir, Élise.
Nous voilà renseignés. Élise, merci infiniment.
La prochaine fois, je vous vois en studio. Bye-bye.
Oui, bye-bye. À la prochaine. On a hâte de te revoir. Élise Berger-Pelletier, urgentologue avec qui on parle fréquemment dès que l'actualité s'impose. Puis quand vous avez des questions de santé, là, des fois, ça nous aiguille pour les prochaines chroniques. Fait qu'en tout temps... pour vrai, c'est mon cauchemar actuellement.
Mais je peux comprendre.
Avec mon plus jeune qui fait des crises de panique. On n'est même pas capable de l'asseoir sur la chaise. T'sais. Puis j'ai tout essayé.
Alors
ça
que
fait...
ton kid est tellement Johnny Bontemps, mais
non,
là,
non,
c'est
mais...
irrationnel.
Puis je sais d'où ça vient. Ça vient de son temps à l'hôpital.
Mais
puis
oui, c'est normal.
Ça a été,
c'est inconscient.
Oui, c'est inconscient, mais c'est là. T'sais. Puis ça fait quoi? 4 fois que j'essaye d'y aller, puis ça se termine toujours de la même façon. Puis à chaque fois, j'ai essayé une stratégie différente.
La rationalité, genre, voici ce qui se passe avec la rougeole.
Écoute, on a écouté « Il était une fois la vie avec les vaccins », là, pour te donner une idée de où est-ce que je suis rendu dans la liste des choses que j'essaye.
Il l'expliquait bien, en plus.
Les vidéos, puis moi, il y a une chose que je veux pas faire, c'est me battre avec pour la soirée, parce que je me dis exactement ce qu'Élise nous a dit tantôt, c'est que le traumatisme va juste empirer après ça. Mais on m'avait parlé de l'hypnose, puis je me demandais si ça se faisait avec des plus jeunes. Je connais rien là-dedans. Là.
Bien, c'est fascinant parce qu'il y a une couple de semaines avant Noël, on a jasé avec Noémie, qu'elle s'appelle, qui est hypnothérapeute, en fait, dans la ville de Québec, Noémie Landreau. Puis on avait jasé sur toutes sortes d'aspects de l'hypnose, puis tout ce qui est peur et phobie, ça en fait partie. Puis chez l'enfant aussi. J'ai texté, j'étais curieuse de savoir, puis chez l'enfant aussi. Puis c'est fou parce que des fois, tu penses que ce genre de service-là, c'est quoi, comme 6-7 séances, puis ça va te coûter une beurrée. Mais en moyenne, les problèmes, elle les règle en 1 à 2 séances. Parce que c'est une question de subconscient. Fait qu'il paraît que ça fonctionne super bien. Quand on avait jasé, il y a plein d'auditeurs qui avaient témoigner.
Parce que, tu sais, j'ai des beaux témoignages de gens qui faisaient de la phobie d'aiguille puis qui me disent le meilleur remède, c'est d'attendre de vieillir un peu. Puis en même temps, ben, tu regardes ce qui se passe dans l'actualité. Tu sais, là, on parle de rougeole puis de ces affaires-là. Je suis pas le plus peureux de la gang, mais en même temps...
Même une influenza, tu sais, le moins possible.
Non, c'est ça, exact. Fait que merci pour les gens qui ont pris le temps d'envoyer des messages, c'est apprécié.
Même en vieillissant, moi, il faut encore que je me couche. J'ai vraiment l'air d'un gros bébé là, mais il faut encore que je sois couché.
Ben moi, je regarde.
Par connaissance une fois sur deux.
Moi, je regarde pas.
Ah, moi non plus, je regarde pas. Là. Je regarde pas en tout. Puis, tu sais, quand elle me dit, OK, on lâche le respire, je le fais, je suis toutes les consignes.
Mais votre concentration va pas toute là. Moi, même
absolument
si je regarde
pas
là, c'est comme si tout se dirige vers la sensation.
Au contraire, je vais plus loin que ça. Je le sais que si ça se dirige là, ça risque de faire mal. Fait que je. Puis en plus, tu fais du yoga puis des affaires du genre. Ah, oui, c'est carrément ce qu'il faut que tu fasses.
Tant que ça marche pas pour aider le problème d'aiguille.
Moi, depuis que j'ai donné du sang, les vaccins, je trouve ça court, puis c'est bien correct.
T'as même... été capable?
De donner du sang?
Au complet?
Ça m'est arrivé une couple de fois, mais ça a toujours été difficile.
D'ailleurs, ça risque d'être un de nos petits défis en 2025. Ouais. Là, j'aimerais ça amener Audrey avec moi faire un don de sang.
Parce que je l'ai fait trois fois, puis les trois fois, je me suis évanouie, fait qu'ils te déploient, qu'ils sont obligés. Puis écoute, je veux dire, honnêtement, je broyais en sortant de là, c'est assez insultant.
Quand
tu sens pour rien.
Non, non, puis c'est ça. Puis quand t'es sorti du coma trois mois plus tard, il a tout fallu expliquer ce que t'avais mangé.
Non, mais j'aimerais tellement ça.
16h51, on fait une courte pause, on revient. Vous êtes à Boulevard 102.1, c'est Gravel dans le retour. Gravel